Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Seloudia, bonjour. 13 civils ont été tués mercredi en République centrafricaine à Bangoto, à 300 km au nord de la capitale Bangui, a affirmé hier l'ONU dans un communiqué sans préciser les circonstances de l'attaque ni l'identité des assaillants. L'ONU a appelé à une enquête. Pour sa part, le gouvernement a accusé les éléments de la CPC créée en décembre 2020 pour tenter de renverser le régime du président Faustin Archange Touadéra d'être à l'origine de l'attaque. En République démocratique du Congo, 8 officiers de l'armée et un de la police soupçonnés de détournement de fonds alloués aux opérations militaires dans le nord-est du pays ont été arrêtés, a-t-on appris ce jeudi auprès de l'armée. Le verdict du procès contre Paul Rusesa Bagina, notamment poursuivi pour terrorisme au Rwanda, sera rendu le 20 août, a annoncé ce jeudi le tribunal de Kigali qui juge depuis février le héros du film Hôtel Rwanda, aux côtés de 20 autres co-prévenus. La défense parle de procès politique. Le gouvernement britannique a annoncé ce jeudi des sanctions, un gel des avoirs et des interdictions d'entrée au Royaume-Uni, contre 5 personnes, dont Théodorin Obiang, fils du président de la Guinée équatoriale, des individus qui sont enrichis aux dépens de leurs citoyens, selon le communiqué du ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab. Au moins 20 civils ont été tués et des dizaines de milliers ont été déplacés dans de violents combats entre rebelles et forces gouvernementales dans la région éthiopienne de l'Afar, limitrophe du Tigré, a indiqué ce jeudi un responsable éthiopien. À Madagascar, un projet d'assassinat du président Ange Ajouline a été déjoué et 6 personnes arrêtées, dont 2 Français, ont annoncé la justice et le gouvernement. Israël a obtenu le statut d'observateur à l'Union africaine qu'il réclamait depuis des années. L'ambassadeur israélien Aleli Atmasou a présenté hier ses lettres de créance au président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, selon des communiqués de l'UA et de la diplomatie israélienne. Les pays au centre des révélations sur le logiciel d'espionnage Pegasus ont réagi en ordre dispersé du Maroc, qui va porter plainte pour diffamation, à la Hongrie et à l'Algérie, qui ont ouvert une enquête, en passant par l'Arabie Saoudite, qui a rejeté les accusations la visant. En pleine résurgence du Covid-19 aux États-Unis, en grande partie à cause du variant Delta, de plus en plus de responsables et d'élus républicains se joignent au concert d'appel à la vaccination, rejetant les théories du complot qui laissent des millions d'Américains sans défense face au virus. Les cas graves et les décès en hausse depuis plusieurs semaines aux États-Unis concernent dans l'immense majorité des cas la population non vaccinée. Les pays membres de l'Union européenne n'ont jusqu'à présent livré qu'une infime partie de leurs excédents de vaccins contre le Covid-19 aux pays pauvres, soit moins de 3% du total des 160 millions de doses promises, selon un document interne de la Commission européenne consulté par l'agence Reuters. Le président chinois Xi Jinping effectue actuellement une visite au Tibet, la première d'un président chinois sur le toit du monde depuis 31 ans, ont annoncé les médias officiels. Sa visite coïncide avec le 70e anniversaire de l'invasion du Tibet par les troupes communistes, un événement célébré à Pékin comme une libération pacifique. Les États-Unis ont imposé ce jeudi des sanctions financières, avant tout symboliques, au ministre cubain de la Défense, pour la répression des récentes manifestations pacifiques et pro-démocratie à Cuba, tout en menaçant de nouvelles mesures punitives. Au Mexique, selon des autorités locales, le journaliste Ricardo López a été assassiné ce jeudi dans le nord d'un des pays les plus dangereux pour la presse. En mars dernier, il avait affirmé lors d'une conférence de presse avoir reçu des menaces en raison de son travail. La suite de nos informations, c'est aujourd'hui l'ouverture officielle des Jeux Olympiques à Tokyo. La capitale japonaise a été placée sous état d'urgence à cause d'une flambée des cas de Covid-19. En Guinée, le gouvernement a fait un revirement hier après avoir annoncé la veille que les athlètes guinéens n'iraient pas à Tokyo. Cela avait entraîné un tollé national forçant Conakry à revenir sur cette décision. Le point avec notre correspondant sur place, Zakaria Camara.
La presse et les amoureux des sports n'ont pas tardé à réagir à l'annonce du gouvernement guinéen. Les raisons du Covid évoquées par les autorités locales ne tiennent pas, selon Mohamed Kaba, analyste de l'actualité guinéenne.
Pour des raisons de Covid, on évoquait haut lieu, mais après il y a eu des grincements dedans. Tous les Guinéens se sont levés et on parle d'une même voix. Chacun a essayé à sa façon de désapprouver cette décision du gouvernement. Et je crois que le peuple a eu raison. Le président Fakonde a donné instruction à son ministre des Sports, Samson Bantamaslo, de faire bouger l'équipe.
Pour la deuxième fois aux Jeux Olympiques, certains supporters espèrent voir la Guinée sur le podium grâce à la lutteuse Fatoumata Yari, la seule qualifiée à Tokyo. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
En Tanzanie, le leader du principal parti d'opposition, Freeman Mbowe, et une dizaine de membres de son parti arrêtés mercredi sont soupçonnés d'actes de terrorisme, a annoncé hier la police. Ce coup de filet rappelle les méthodes du président John Magufuli, décédé en mars dernier. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Nous détenons Freeman Mbowe pour avoir préparé des actes de terrorisme, notamment l'assassinat de responsables du gouvernement, a déclaré hier David Missime, porte-parole de la police tanzanienne. Il ajoute que 6 personnalités de son parti ont déjà été inculpées devant un juge. Monsieur Mbowe, président du parti Chadema, a été arrêté tôt ce mercredi avec une dizaine de membres de sa formation à Mamba, dans le nord-ouest du pays. Selon son parti, la police a perquisitionné sa maison et a saisi son ordinateur. Ses opposants avaient appelé à un rassemblement pour demander des réformes constitutionnelles dans une ville où toutes les manifestations sont interdites en raison de la lutte contre le Covid-19. Depuis sa prise de fonction il y a 4 mois, la nouvelle présidente, Samia Suluhu Hassan, a amorcé une rupture avec son prédécesseur, John Magufuli, se disant prête à défendre la démocratie et les libertés fondamentales. Amnesty International a qualifié d'arbitraire ces arrestations, ajoutant qu'elles témoignent d'un mépris de l'état de droit. Mercredi, les États-Unis ont affirmé que ces arrestations étaient très inquiétantes.
Arrogance et manque de respect, c'est en ces termes que la Chine a vivement critiqué hier la demande de l'OMS de poursuivre sur son sol l'enquête sur les origines du Covid-19, s'attirant aussi une réplique véhémente de Washington sur son attitude jugée irresponsable. Le point avec Nanit Talani.
Pékin a fustigé la position américaine et s'est dit extrêmement surpris. Elle révèle un manque de respect pour le bon sens et une arrogance envers la science, a estimé le vice-ministre chinois de la Santé, Zheng Yixin, récusant la théorie de la fuite de laboratoire qualifiée de rumeur. Il a assuré que l'Institut de virologie de Yuan n'a jamais mené de recherche sur les coronavirus. Pour Washington, la position chinoise est irresponsable et dangereuse. Les États-Unis mettent en doute les conclusions des experts dépêchés à Wuhan par l'OMS, qui avaient pourtant jugé extrêmement improbable que le virus provienne d'un laboratoire, privilégiant la piste d'une contamination naturelle par des animaux. Le chef de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a lui évoqué la semaine dernière un manque de partage par Pékin de données brutes sur le virus, ce qui constitue un problème pour retracer l'origine de l'épidémie. La Chine s'en défend et critique à son tour un manque de transparence des États-Unis. Le docteur Tedros a lui-même demandé la semaine dernière un audit des laboratoires dans les régions où les premiers cas de coronavirus ont été identifiés, une référence à Wuhan.
La Minute Éco,
Nani Talani.
Le Bénin a émis ses premières obligations internationales qui lui ont permis de mobiliser 328 milliards de francs CFA avec une échéance de remboursement fixée en 2035 selon la Tribune Afrique. Le ministère béninois de l'économie et des finances soutient que ces fonds serviront exclusivement au financement de divers projets à caractère social et environnemental. Le Bénin est le premier pays d'Afrique à émettre un eurobond des objectifs de développement durable des Nations Unies et l'un des premiers au plan mondial. En Tunisie, les recettes touristiques ont baissé de plus de 25,3% sur les 7 derniers mois par rapport à la même période de l'an dernier, suivant les statistiques publiées par la Banque centrale tunisienne mercredi. Le tourisme représente environ 14% du PIB tunisien et génère quelque 400 000 emplois. Terminons par cette cyberattaque qui a perturbé les opérations dans les terminaux à conteneurs les plus fréquentés d'Afrique du Sud, les plus grands du continent, ont déclaré jeudi à Reuters, trois sources ayant une connaissance directe du dossier. Transnet, qui exploite les principaux ports sud-africains, dont Durban et Cape Town, et un immense réseau ferroviaire qui transporte des minéraux et d'autres produits de base pour l'exportation, a confirmé que ces applications informatiques connaissaient des perturbations et qu'ils travaillaient pour en identifier la cause.
Merci Nanit. Et maintenant les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous, c'est aujourd'hui qu'aura lieu la cérémonie d'ouverture officielle des Jeux Olympiques de Tokyo. Elle débutera à 11h temps universel pour une sobre célébration au stade olympique national de Tokyo, sans spectateurs. Hier, le comité d'organisation a démis de ses fonctions Kentaro Kobayashi, directeur artistique de la cérémonie d'ouverture à cause d'une blague douteuse sur l'Holocauste. Dans un sketch qu'il a écrit en 1998, ce limogeage survient quelques jours après la démission de Keigo Oyamada, compositeur de l'un des thèmes musicaux de cette même cérémonie d'ouverture, rattrapé aussi par son passé. En mars, un autre responsable artistique, Hiroshi Sasaki, a démissionné pour avoir suggéré de déguiser en porc une comédienne et vedette japonaise des réseaux sociaux au rondeur assumé. Finalement, la Guinée sera présente aux Jeux Olympiques. Le pays qui doit envoyer une délégation de 5 athlètes à Tokyo avait annoncé y renoncer à cause du Covid-19. L'annonce a été faite dans un communiqué par le ministre des Sports, Sanoussi Bantama Sow.
Donc c'est avec beaucoup de joie que je profite de votre antenne pour annoncer la participation de la Guinée aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021. Après avoir eu l'assurance des autorités japonaises et de l'ambassade de Guinée au Japon que toutes les dispositions sanitaires seront prises pour protéger la délégation guinéenne.
Le ministre Sanoussi Bantama Sow a écarté des problèmes financiers allégués pour justifier le renoncement de la Guinée en rapport avec des rumeurs de surfacturation.
On n'ose pas surfacturer, surtout que le président Alpha Condé a dit de gouverner la Guinée autrement. Et n'oubliez pas que cette délégation comprend 19 personnes. Une délégation de foot comprend au moins 40 personnes. Donc comment on peut être capable de faire voyager plusieurs fois dans l'année, une délégation qui comprend plus de 40 personnes et être incapable de faire voyager un groupe de 19 personnes. Donc ça n'a rien à voir au problème d'argent.
Sanoussi Bantama Sow, ministre guinéen des Sports. En attendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, les hostilités ont commencé en football. Bagassi Koura, les trois représentants africains, ont fait leur première apparition.
Oui, chez les hommes, la Côte d'Ivoire a réussi son entrée en battant l'Arabie Saoudite 2-1 dans le groupe D. Un but contre son camp d'Al-Ami et un autre de Franck Kessier ont permis aux éléphants de l'emporter. Dans le groupe C, l'Égypte a fait match nul 0-0 face à l'Espagne. Défaite d'entrée par contre pour l'Afrique du Sud, battue 1-0 par le pays hôte, le Japon. Le Mexique a corrigé la France 4-1. L'Australie a battu l'Argentine 2-0. Le Brésil a donné une leçon à l'Allemagne 4-2.
Merci Bagassi. Chris Middleton et Drew Holiday, sacré champion NBA mardi avec Milwaukee et Devin Booker, finaliste malheureux avec Phoenix, vont rejoindre Team USA samedi à la veille de son entrée en lice contre la France aux Jeux de Tokyo. Ce trio qui ne manque certes pas de rythme après une finale NBA conclue en 6 matchs intenses n'a pas participé à la préparation de l'équipe des États-Unis. L'entraîneur Greg Popovich devrait composer avec une rotation à 9 joueurs, voire 8, sachant que l'arrière Zach LaVine, bloqué aux États-Unis afin de se soumettre au protocole Covid, n'a rejoint ses coéquipiers à Tokyo que ce jeudi.
Merci, Yacouba. Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sebouya. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Somalie, le groupe Al-Shabaab a menacé d'attaquer les délégués qui vont choisir les législateurs lors des élections parlementaires qui se tiendront à partir de dimanche. Reportage de Mohamed Kahiye à Mogadiscio, récit de Nanit Talani.
Le groupe islamiste Al-Shabaab a menacé de perturber les prochaines élections présidentielles et parlementaires en Somalie. Le chef de ce groupe, Ahmed Abu Ubaïda, a déclaré mardi qu'ils étaient opposés au processus électoral et a menacé les délégués électoraux. Ahmed Abu Ubaïda.
Les délégués électoraux ne devraient pas être leurrés par des promesses creuses telles que les avantages financiers et le scrutin secret. Ils devraient penser au destin de délégués précédents qui ont participé aux élections de 2017. Certains ont été tués et d'autres vivent encore dans la peur.
Al-Shabaab a revendiqué les attaques qui ont tué des dizaines de délégués lors du dernier processus électoral en 2017. Ubaïda a exhorté les délégués à reconsidérer leur décision de participer aux élections cette année, ajoutant que ceux qui défient Al-Shabaab ne seront pas en sécurité. Les scrutins commencent dimanche avec l'élection de 54 membres de la Chambre haute du Parlement par les clans influents de la Somalie. Abdi Salam Goulaïd, l'ancien directeur adjoint de l'Agence somalienne de renseignement, a déclaré que cette menace vise à créer un climat de peur parmi les personnes impliquées dans les scrutins. Abdi Salam Goulaïd.
Ces nouvelles menaces du groupe concernant les prochaines élections ne doivent pas être prises à la légère. Une réponse coordonnée est nécessaire. Même si les menaces auront certainement un impact sur les élections, le groupe n'atteindra pas son objectif principal d'arrêter le processus démocratique dans le pays.
Les forces somaliennes, en coopération avec la force de l'Union africaine en Somalie, la MISOM, se prépare à assurer la sécurité et la sûreté des élections. Le conseiller principal à la sécurité au bureau du Premier ministre Abdi Dirché a déclaré que tout serait mis en œuvre pour dissuader les djihadistes. Abdi Dirché.
La politique du gouvernement fédéral concernant le groupe armé Al-Shabaab est très claire. Ce groupe sera vaincu et expulsé du pays via un plan pour assurer la sécurité de tous les sites électoraux à travers le pays.
Les élections somaliennes ont été retardées d'un an en raison de désaccords. Les législateurs ont tenté de prolonger le mandat du président Mohamed Abdoulaye Farmadjo, mais sont revenus sur cette décision sous la pression des groupes d'opposition et de la communauté internationale.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Au Bénin, le directeur d'une grande entreprise a été récemment condamné par la Cour d'appel de Cotonou à verser une amende de 15 millions de francs CFA à une de ses employées pour harcèlement sexuel en milieu professionnel. Beaucoup espèrent que cette décision aidera à freiner le harcèlement sexuel en milieu professionnel. Ce phénomène a pris des proportions inquiétantes, surtout dans le monde des médias. Précision de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
Il y a encore 2 ans, personne n'osait évoquer le phénomène du harcèlement sexuel dans le milieu des médias. Pourtant, le phénomène existe et fait rage. Angela Kedja, journaliste à la télévision nationale, fatiguée de subir, l'a créé à la face du monde, s'attirant la foudre de ses confrères et consoeurs, l'accusant d'avoir provoqué une telle situation. Le harcèlement sexuel dans les médias est subtil et peut passer comme la volonté du chef de voir son employé gravir les échelons. Priscilla a été obligée de se retirer du métier aussi exaspérés d'être assurés.
Quand ton patron te fait la cour, tu refuses, systématiquement c'est des menaces, systématiquement c'est des représailles, systématiquement on t'empêche d'aller sur le terrain. On te confie ce qu'on appelle dans notre jargon des chiens écrasés. On t'empêche de t'épanouir au boulot. Et vous vous imaginez, c'est du directeur de la télévision, du directeur général, du rédacteur en chef, son adjoint, au simple collègue de la rédaction. Et ils ne veulent pas savoir si vous voulez ou pas.
Au sein même de la corporation, les avis sont partagés sur l'existence du phénomène. Pour beaucoup, des femmes de surcroît, celles qui se disent harcelées, sont pour la plupart du temps responsables de leur malheur.
Bon, les hommes provoquent, mais c'est à toi de dire non.
Moi, je pense que les responsabilités doivent être partagées.
Vous voyez des femmes qui s'habillent n'importe comment pour aller dans les bureaux. Les hommes n'ont pas un cœur caillou.
La plupart des femmes qui ont pris par ce métier et qui ont été traitées de la sorte ne s'en sont pas sorties aussi facilement ou avec le bagage qu'il faut pour pouvoir faire le métier. Il est important que des têtes tombent pour que le métier soit assaini de ces brebis galeuses.
Pour le psychosociologue Raoul Serebi, on ne devrait pas se servir de l'excuse de l'habillement d'une femme ou de sa provocation pour justifier un acte aussi répréhensible que le harcèlement. Pour lui, la lutte contre ce phénomène qui détruit silencieusement des vies demande la collaboration des victimes.
Ce n'est pas parce que la personne qui est harcelée fait preuve d'une certaine largesse ou attire d'une manière ou d'une autre que cela donne de raison au harceleur d'aller vers lui. Pour pouvoir remédier à ce phénomène qu'est le harcèlement, les gens doivent déjà passer par la dénonciation et permettre à nos autorités de prendre des mesures drastiques pour pouvoir y remédier parce que cela se fait de plus en plus remarquable dans nos sociétés, surtout professionnelles.
Aujourd'hui, avec le recul, les associations fêtières ont compris l'urgence de lutter contre le phénomène et appellent à une salubrité dans le milieu afin que les femmes puissent travailler en paix. Zakia Tlatouli est la présidente de l'UPMB, l'Union professionnelle des médias du Bénin.
Et j'espère que les sanctions vont véritablement tomber et amener à décourager tous ces hommes-là qui se comportent de la sorte et qui ne favorisent pas vraiment qu'il y ait un environnement de travail adéquat qui facilite l'épanouissement de la femme au travail.
Il faut dire qu'au Bénin, la loi interdit toute forme de harcèlement sexuel et offre une protection à la victime. Le harcèlement sexuel est un délit punissable et la personne reconnue coupable de harcèlement est passible d'un emprisonnement d'un an à deux ans et d'une amende allant de 100 000 à 1 million de francs CFA. De Cotonou, Ginette Fleur dans les Pouvoirs Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La participation du Congo-Brazzaville aux Jeux Olympiques de Tokyo se limite à trois athlètes auxquels le public ne donne pas assez de chances pour gagner une médaille. Sur le plan de la compétition elle-même, les Brazzavillois affirment que leur pays n'y brille pas vraiment et les Jeux Olympiques ne leur parlent pas. Reportage d'Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
Les trois athlètes qui représentent le Congo aux Jeux Olympiques de Tokyo sont de très moyenne taille. Natasha Ngoy, alignée aux 100 mètres, a bénéficié d'une bourse d'entraînement au Bénin, tandis que Anthony Afumba, pour les 400 mètres, réside en France. À eux, il faut ajouter Stéphane Samila à la natation qui s'entraîne sur place au pays. Achille Zikutoto, qui a suivi les trois athlètes, ne leur donne aucune chance lors de ces compétitions.
Pour le CIO, pour se qualifier, il faut atteindre les minima. Or, dans toutes les disciplines confondues, le Congo n'a pas atteint les minima. En tout cas, je ne crois pas au miracle. Certainement une amélioration peut-être des performances du Congo avec Natacha déjà qui, lors des championnats du monde au Qatar il y a 4 ans, était sortie 13e au 100 mètres, médaille. En tout cas, je n'aimerais pas être le chat noir justement de la délégation congolaise.
Le Congo n'a jamais glané une seule médaille aux Jeux Olympiques. Sa meilleure performance demeure cette 4e place obtenue en 2016 au lancer de poids grâce à Franck Elema, qui n'a pas été retenu cette fois-ci. D'où le scepticisme des Brazzavillois.
Quand on regarde les résultats que ces athlètes ont produits au niveau africain d'abord, certes, il y en a une qui est athlète qui fait les 100 et les 200 mètres, qui a gagné les médailles d'or au niveau de la zone 4, mais ça ne suffit pas. à l'issue des Jeux Olympiques, quand vous êtes présent, quand vous réalisez des bons résultats, il y a un Brésilien qui peut se dire, tiens, le Congo, ça se trouve où? Et il va aller faire des recherches pour justement connaître ce qui se passe au Congo. C'est un pays qui se trouve dans quel continent, ainsi de suite. Ça ne pourra pas être le cas parce que le Congo est là-bas en tourisme.
Les Jeux Olympiques ne suscitent pas chez nous au Congo le même appétit, le même engouement, la même ferveur que les Jeux africains, par exemple. Vous savez, nous les avons organisés à deux reprises, en 1965 et en 2015 tout récemment. On a eu par exemple un champion du saut en longueur, si je ne me trompe pas, Henri Elende. Aujourd'hui on parle de lui, mais c'était à l'occasion des Jeux africains.
La délégation congolaise est conduite par le ministre des Sports, Hugues Londélé, invité du Comité international olympique. Il faut ajouter sa suite, ainsi que les entraîneurs. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Les États-Unis ont enregistré en moyenne plus de 26 000 nouveaux cas de COVID-19 par jour la semaine dernière. C'est plus que le double que le mois dernier. Le variant Delta représente plus de 80% des nouveaux cas. La correspondante de la VOA à la Maison-Blanche, Patsy Vidakuswara, revient sur la stratégie de l'administration Biden pour faire face à cette nouvelle vague, alors que beaucoup d'Américains hésitent encore à se faire vacciner dans le pays. Et récit de Claire Morin-Gibourg.
Les restrictions anti-Covid-19 touchant les bars et les discothèques de certaines villes américaines ont été entièrement levées. Le variant Delta, qui se propage rapidement, a entraîné une augmentation des cas et des hospitalisations, en particulier dans les zones où beaucoup hésitent à se faire vacciner. Pour l'administration Biden, il s'agit de la pandémie des non-vaccinés. Le docteur Rochelle Walensky, directrice des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies.
Unvaccinated people are at risk.
Les personnes non vaccinées sont à risque et les communautés qui sont entièrement vaccinées se portent généralement bien.
Malgré les efforts de l'administration pour distribuer les vaccins gratuitement et facilement disponibles, les données gouvernementales montrent que seulement 49% des Américains sont complètement vaccinés. Un récent sondage, Axios Ipsos, montre que 30% des adultes américains ne sont pas immunisés et la moitié d'entre eux disent qu'ils vont refuser de se faire vacciner quoi qu'il arrive. Chris Jackson est le responsable des sondages chez Ipsos.
There's a wide range of reasons given for
les raisons invoquées pour ne pas se faire vacciner sont nombreuses. Elles se résument en général à une sorte de sentiment de sécurité par rapport au vaccin lui-même, sans penser que le coronavirus est si grave ou si dangereux.
Les données montrent que les personnes opposées au vaccin s'informent principalement par des sources alternatives comme les réseaux sociaux qui véhiculent souvent des fausses informations sur la santé. La semaine dernière, le directeur de la santé publique américain, Vivek Murthy, a mis en garde contre ces dangers.
La désinformation sur la santé a conduit les gens à résister au port de masques dans les environnements à haut risque. Cela les a amenés à refuser des traitements qui ont fait leur preuve et à choisir de ne pas se faire vacciner.
Un autre sondage, Washington Post et ABC News, montre que 86% des démocrates ont reçu au moins une dose contre 45% des républicains. Maintenant, la direction du Parti républicain exhorte ses partisans à se faire vacciner. Le chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell.
Je veux encourager tout le monde à le faire et à ignorer toutes ces autres voix qui donnent manifestement de mauvais conseils.
Cela marque un changement notable après des mois de résistance républicaine contre les efforts anti-pandémie de l'administration Biden. Répondant à la question de VOA, Joe Biden a déclaré qu'il se félicite du changement.
Je ne sais pas combien d'entre eux croyaient ce qu'ils disaient. Ils l'ont peut-être vraiment cru, mais je pense qu'une fois que l'on s'est rendu compte de que ce virus ne fait que tuer, principalement les personnes qui n'ont pas été vaccinées, je pense, comme nous le disons, nous les catholiques, que cela a été un peu une révélation pour eux.
Et au moins deux membres du personnel vacciné de la Maison-Blanche ont été testés positifs au Covid-19 après avoir interagi avec plus de 50 parlementaires démocrates de l'État du Texas qui qui ont visité Washington la semaine dernière.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sevulia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA.